Les podcasts de l'Institut de France. L'envie de savoir. L'entretien de la semaine.
Que faisiez-vous le soir du 13 novembre 2015 ? 10 ans après les attentats les plus meurtriers de notre histoire récente, chacun garde en tête ce moment. On se souvient d'un lieu, d'un son, d'un message, et ces souvenirs, devenus mémoire collective, interrogent. Comment se sont-ils construits ? Ont-ils évolué ? Et que fait-on aussi de la question de l'oubli ? C'est tout l'enjeu du programme 13 novembre, une étude scientifique unique au monde menée par le CNRS et l'INSERM pour recueillir la mémoire des survivants, des témoins, mais aussi de celles et ceux qui ont secouru, soigné, protégé. 10 ans après, que retient-on vraiment du 13 novembre 2015. Pour en parler, Denis Péchanski, historien, directeur de recherche émérite au CNRS et co-responsable du programme 13 novembre. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci de prendre le temps de nous présenter ce programme de recherche assez exceptionnel de par sa durée et de par son ampleur. Il y a deux données qu'on peut retenir. 10 années, 1000 personnes. C'est-à-dire que sur 10 années, vous avez recueilli le témoignage de 1000 personnes, 1000 volontaires sur les attentats du 13 novembre. Dès le début de ce travail, vous saviez qu'il faudrait mobiliser autant de temps et de monde.
Oui, on savait, d'autant plus que l'étude 1000, puisque tel est son nom, hein, c'est un des volets de ce programme 13 novembre. On a aussi un volet biomédical, un volet sur épidémiologie de santé publique. On a des juristes avec nous. Donc, effectivement, c'est une approche transdisciplinaire. Et d'emblée, on savait que ça prendrait une ampleur, à condition évidemment qu'on soit accompagné. Et pour être accompagné, il fallait aussi qu'on ait fait nos preuves. Or, ça faisait déjà pas mal d'années qu'on travaillait ensemble avec Francis Eustache.
Qui est le deuxième co-responsable du programme.
Exactement, c'est un neuropsychologue, donc, complémentarité, toujours dans notre approche. Je me disais qu'il était impossible de comprendre pleinement la mémoire collective, si on ne prenait pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire. Et pour comprendre pleinement ces dynamiques cérébrales, l'imagerie montrait de plus en plus qu'il fallait prendre en compte l'impact du social. Donc ça, c'est le postulat de départ. On n'était pas très nombreux à être sur cette position-là.
Ouais.
Arrive le 13 novembre, on s'est dit qu'il fallait répondre avec nos armes. C'était les armes de la connaissance, de la recherche, tout simplement. Donc un matin, je suis retrouvé, petit déjeuner, et j'ai dit « aïe, j'ai trouvé ». On va interviewer 1000 personnes, 4 fois en 10 ans, et on va essayer de les suivre au maximum les mêmes. Il y a toujours des pertes en ligne, mais 2016, plus 2 ans, plus 5 ans, plus 10 ans.
Vous avez eu l'idée de travailler sur cet événement le jour même des attentats ?
Oui.
Le jour même.
Oui, là, on s'est dit, non, ça ne peut pas bouger. Actuellement, on a 2700 témoignages et 4500 heures. Bon. Faut s'imaginer la richesse de ce qui finalement, évidemment, participe, et à ce micro, je pense que ça va résonner aussi, ça participe de la construction du patrimoine de la mémoire du 13 novembre.
C'est pour ça que vous parlez d'entretiens patrimoniaux,
oui.
Vous utilisez ce mot-là, patrimonial, pour
et
qualifier
ces témoignages.
Et c'est
par hasard si, au bout des 10 ans, on a été sollicité par une productrice de l'INA, qui disait, moi, j'ai entendu parler, elle ne connaissait pas cette étude, elle dit, je voudrais bien en faire un documentaire.
Qui va sortir dans les jours
Il sort là, le 3 novembre, et il est rediffusé donc, sur France 2, deuxième partie de soirée, et puis dans l'après-midi sur France 5, le 14 novembre, et puis évidemment sur les plateformes. Mais c'est Valérie Mans, qui est une des grandes documentaristes de télé, elle a voulu faire un documentaire à partir des entretiens.
Filmé
donc,
que vous
avez fait. Il y a 27 personnes qui sont là sur ce documentaire, et c'est vraiment très fort ce qu'elle a fait. Et on l'a aidée simplement dans le choix des personnes.
Des témoignages. Pour revenir à ce dispositif, donc il y a ce documentaire, mais avant ce documentaire, il y a tous ces témoignages filmés, dont certains que vous avez conduits. Je voulais vous poser la question autour du dispositif choisi. Vous avez non pas choisi de l'écrit, mais de l'image, un support visuel. C'était pour avoir ce temps long. Vous auriez pu l'avoir aussi avec des micros, en entretien audio. Pourquoi vous avez voulu les filmer aussi, ces témoignages
Alors, je parlais de la dimension patrimoniale, ça, ça joue bien entendu, mais à l'origine, c'est d'abord un point de vue scientifique. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé, on va dire qu'il y a quelques années, sur l'analyse statistique de vocabulaire. Donc, de travailler sur le vocabulaire des témoignages, avec l'analyse factorielle de correspondance, enfin bon, tous les outils qu'on a développés dans le domaine. Ça, en France, on est la meilleure école française, c'est la meilleure école au monde sur le sujet. Ça, oui, ça, on sait faire. Mais de travailler sur le son, de travailler sur l'image, sur les émotions, arriver, là, on sait que c'est en train de se développer beaucoup, mais si on peut articuler le texte, la prosodie, l'image, dans une analyse globale, qui n'est pas encore à l'ordre du jour dans notre programme, mais qui est l'objectif, eh bien, je pense que ça sera aussi un apport essentiel à la recherche. Et c'était effectivement d'abord un choix scientifique.
Et sur ces 1000 volontaires, c'est le mot que vous utilisez, 1000 volontaires, qui ont témoigné, qui sont-ils exactement ? Il y a des survivants ? Des attentats ? Il n'y a pas que des survivants. Vous avez...
En fait, on a distingué quatre cercles. D'abord, les exposés. Donc, les exposés, c'est ceux qui sont les rescapés, les témoins, les intervenants professionnels de toutes sortes. Donc,
les
policiers, les médecins, les politiques, les magistrats, la Croix-Rouge. Bon.
D'accord.
Et les parents endeuillés. Ça, c'est le cercle 1. Des exposés, et ça fait le lien avec les analyses biomédicales, dans la mesure où les personnes exposées, pour eux, ce sont des personnes exposées aux troubles de stress post-traumatique. Ces catégories que je définis sont les catégories de personnes qui peuvent développer un trouble de stress post-traumatique. Bon, c'est une sorte de condition, en quelque sorte. Le cercle 2, c'est des gens des 10e, 11e arrondissements ou de Saint-Denis, donc des différents
lieux.
Des habitants, mais qui n'ont pas vu, qui n'ont pas entendu, mais qui sont vraiment marqués par la mémorialisation de ce 13 novembre. Et on a bien fait de le faire, parce que c'est vraiment singulier. Ensuite, le reste, cercle 3, le reste de la région parisienne. Et le cercle 4, Caen, Metz, Montpellier, pour avoir au plus loin la façon dont réagissent les personnes et comment ils nous en parlent. Bon. Donc, on avait ce dispositif... qui nous permet aussi de distinguer dans les récits, en faisant de l'analyse statistique de vocabulaire, les choses très jolies qui ressortent sur la singularité de telle ou telle sous-catégorie par rapport aux autres, par le suremploi de certains mots ou le sous-emploi de certains mots, etc.
Par exemple, dans le premier cercle, le cercle des exposés, quels sont les mots qui
ressortent ? Le cercle des exposés, la première chose qui ressort, c'est une opposition. C'est même quand on met... tout sur ordinateur. Par exemple, mes 934 entretiens, je les mets sur ordinateur. Bon, on voit un peu, et on va sortir une analyse factorielle des correspondances. On voit les 300 formes les plus utilisées, donc on croise un tableau, 934 personnes, 300 formes.
Okay.
Ça fait pratiquement un espace à 300 dimensions, comment vous dire. C'est un peu compliqué,
j'imagine.
Eh bien, le premier, c'est l'opposition, non pas entre... les rescapés par rapport, le cercle 1 par rapport aux autres, mais entre les rescapés et les intervenants professionnels, et en particulier les policiers.
Ah oui ?
Ils n'utilisent pas les mêmes mots pour raconter cette histoire-là. Avec une chose qui pourra sembler évidente quand je vais le dire, mais le « je », le « me » sont surreprésentés pour les rescapés.
Évidemment.
Ils sont absents, en tout cas ils sont sous-représentés dans le discours de ces intervenants extérieurs qui utilisent le « nous ». Qui utilise avec tous les mots de l'intervention technique. Bon, alors même que quand on les entend, c'est qu'ils ne sont pas sortis indemnes de l'affaire.
Individuellement,
très clairement. Mais dans les mots, on voit bien qu'ils n'ont pas le même positionnement, le même rôle social, on va dire, ou bien des oppositions entre le cercle 1 et le cercle 4, donc les exposés et puis les personnes en province, le mot peur. Il est surreprésenté en cercle 4 par rapport au cercle 1, alors même qu'ils sont à distance. Le mot peur, le mot guerre est suremployé en cercle 4, il l'est par rapport au cercle 1. Il y a plein de choses qu'on trouve dans le vocabulaire qui sont quand même très jolies. Et puis, quelque chose qui, quand même, d'ailleurs, a donné l'occasion Charlotte Lacoste de nous faire un livre là-dessus, là, qui vient de sortir aussi, eh bien, c'est la variable genrée. Les hommes et les femmes n'utilisent pas les mêmes mots.
Alors, que
pour raconter la même histoire.
Que disent les femmes, que disent les hommes?
Eh bien, du côté des femmes, on aura un discours beaucoup plus émotionnel. Mm-hmm. On aura tout un vocabulaire de la parentèle. C'est-à-dire, on voit les mots comme fille, fils, mari, enfant, pour ceux qui sont en âge, bien sûr, mais c'est la même chose pour les plus jeunes qui vont parler de leurs camarades. Alors que le vocabulaire des hommes sera, dans ce vocabulaire seront surreprésentés les mots de l'analyse stratégique, géopolitique. Là, c'est très clair. Cette opposition-là, elle est flagrante. Et puis une qui est plus, mais il y a plein d'autres choses qui opposent le vocabulaire des femmes, le vocabulaire des hommes, et c'est l'une des avancées intéressantes dans toute cette affaire-là. Bon, ce qui amusera les linguistes, évidemment, mais ça les étonnera pas, c'est qu'il y a une autre variable qui est fondamentale, c'est l'âge. Du coup, genre, truc, en fait, etc., etc., bon, c'est pas vraiment chez les vieux que ça se passe. Et quand on distingue par quatre quartiles, hein, les 25% les plus jeunes jusqu'aux 25% les plus âgés, bah, il y a une vraie, vraie différence. Mais ça, c'était attendu, mais assez joli à montrer, quoi.
Donc il y a plusieurs variables, là on a parlé du genre, de l'âge, il y a une autre variable dont on n'a pas parlé, c'est la variable temporelle qui est aussi importante. Comment les récits de tous ces témoins ou pas ont évolué à travers les années? Est-ce que, par exemple entre la phase 1 et la phase la plus récente de témoignage, comment les récits ont évolué?
Eh bien, quand l'Institut financera ce programme massivement, on pourra mobiliser toute une série de chercheurs et puis de techniciens pour aller encore plus vite dans les transcriptions des témoignages. Non, sérieusement, ça prend un temps monumental.
Pour le moment, vous n'avez pas
on
encore
pas
de résultats.
On n'a pas la possibilité de voir les évolutions. Okay. On a, entre la 1 et la 2, il y a des choses qui commencent à se dessiner, mais je ne veux pas aller trop dans les conclusions tout de suite, parce que je préfère qu'on soit, que ça soit stabilisé. En revanche, ce qu'on a, ça, c'est l'étude 1000. Mais vous voyez bien que l'étude 1000, ce n'est pas du tout représentatif de la société française. On ne l'a pas fait pour ça. En plus, ce sont des volontaires. C'est très clair. Et dans le cas extrême là, du documentaire, ils sont évidemment volontaires aussi, ceux qui ont... Parce qu'il y avait ces passages à l'image, alors qu'il y a un engagement de confidentialité absolue qu'on signe. Et s'il y avait un documentaire, fallait se retourner encore vers les personnes pour qu'ils donnent leur accord. Bon, c'est ce qui donne la force à cela. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça se passe pour la société française dans sa globalité, en population générale. Parce que là, on va toucher au plus près quoi ? Ben, la mémoire collective. La mémoire collective, elle naît dans la contemporanéité de l'événement, au moment même de l'événement. Quelques jours, quelques mois plus tard, se construit une mémoire collective tout de suite. Et c'est rare qu'on fasse des études là-dessus. Nous, le premier sondage, il est de l'été 2016, donc 7 mois après, donc au plus proche de l'événement. Mais on voulait aussi une étude longitudinale. En 8 ans, on a fait 8 sondages. 8 études sur les Français et la mémoire du 13 novembre, puisque c'était notre objet. Et ça, il n'y a pas d'équivalent. Évidemment, parce que ça permet de voir les évolutions extrêmement précises sur 8 ans. Il y a des choses quand même assez majeures qui ressortent.
Justement, qu'est-ce que cette mémoire du 13 novembre dit sur notre époque, de façon plus générale ?
Ce qu'elle dit sur notre époque, par exemple, c'est qu'on a un mécanisme de condensation mémorielle.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que quand on pose la question « Quels sont les actes terroristes qui vous ont le plus marqué depuis le 13 novembre ?» D'emblée, on a, et en France et à l'étranger, la plupart des événements rapportés sont des événements rapportés en France, c'est assez classique, mais on a malgré tout le 11 septembre, qui est une sorte de matrice du 21e siècle et qui va rester pendant ces 8 ans à même niveau. On a les attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, Hyper Cacher, la policière municipale de Montrouge, et son collègue assassiné à Paris un peu avant. Et vous avez le 13 novembre. Le 13 novembre apparaît d'emblée comme la référence première des actes terroristes. Ça va rester en continu. Donc on voit des mécanismes de condensation mémorielle. Dans ce cas-là, Nice, l'horreur de l'attentat...
En 2016.
Oui, le 14 juillet 2016, le camion, c'est-à-dire 86 morts, avec des gosses, enfin, c'est l'horreur. Or, oui, on a un sondage 7-8 mois après, en janvier 2017, il est plus bas que les autres, mais les trois que j'ai cités, mais il est quand même à haut niveau. Mais deux ans plus tard, c'est fini.
Il a complètement disparu de la mémoire.
Il a disparu de la mémoire collective. Alors bien sûr, si notre question c'était, bon, en face à face, on disait, mais Nice, il n'y a pas eu... Ah ben oui, c'est vrai. Bon, là, ça sortirait. Mais ce changement-là est fondamental parce que ça a aussi des comportements sur les personnes. C'est la double peine. Non seulement ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, mais ils savent qu'ils sont oubliés. Bon. Deuxième question, deuxième condensation mémorielle. Quels sont les lieux du 13 novembre ? Le nombre de journalistes ou de politiques qui, au début, alors heureusement, il y avait nous, mais surtout les associations de victimes, qui étions extrêmement vigilants sur cette affaire, qui parlaient des attentats du Bataclan.
C'est ça, on retient que le Bataclan, or, il y a eu le Stade de France.
Et les terrasses.
Les terrasses, bien
bon,
sûr.
Bon, or, dans un premier temps, au niveau les terrasses et Stade de France, très haut niveau Bataclan, deux ans plus tard, effondrement des références au Stade de France et aux terrasses, et subsiste le Bataclan comme lieu précis, et Paris, quand on n'a pas d'idée un peu précise sur le sujet. Et ça, c'est quand même un mécanisme très fort, parce que, encore une fois, comme pour Nice, pour les rescapés des terrasses Stade de France et pour les endeuillés, c'est la double peine.
Mais alors pourquoi la mémoire collective va retenir les attentats du 13 novembre plus que l'attentat de Nice qui a fait... Alors certes, le nombre de victimes n'est pas le même, mais quand même, les attentats de Nice, il y avait...
C'est très spectaculaire, mais il y a plein de... On peut chercher plein de raisons à ça. La singularité des attentats du 13 novembre, c'est téléporté, organisé depuis Daesh, Proche-Moyen-Orient. C'est multisite. Donc, d'une ampleur exceptionnelle.
La capitale, peut-être ?
La capitale, évidemment, qui déjà avait été très touchée par les attentats terroristes. C'est la ville la plus touchée de France en nombre d'attentats terroristes, bien sûr, depuis des décennies. Donc, tous ces paramètres-là jouent, évidemment, pour expliquer que le 13 novembre est la date qui reste. Même conjoncturellement, ce qu'on repère, nous, dans nos sondages, c'est tellement précis. Il y a le procès qu'on appelle V13.
Oui.
Le procès du 13 novembre, qui est un procès exemplaire, qui a duré 10 mois,
là
c'est
aussi
historique.
Un procès monumental, oui.
Monumental, entre septembre 21 et juin 22. Enfin, c'est phénoménal. Et en plus, c'est la fin de tout un procès judiciaire-policier extrêmement riche, de très haute qualité. Mais le résultat, parce qu'il y a une extrême importance de la médiatisation, les journalistes étaient très nombreux, et ont rendu compte, dans un discours qui était très largement partagé, d'ailleurs, par eux, eh bien, 6 mois plus tard, bon, toutes les références, globalement, aux actes terroristes, y compris les trois premiers, hein, avaient tendance à baisser d'année en année, ce qui n'a rien de surprenant. Sauf qu'arrive le procès, 6 mois après la fin du procès, plus 15% pour le 13 novembre, les autres étant stabilisés. Bon. À l'été 24... On a aussi toujours le même niveau pour le 13 novembre. Donc ça, oui, il y a aussi la conjoncture qui va se rajouter à ces variables qu'on a vues ensemble.
Je voulais revenir à l'étude des 1000 que vous avez menée. Vous avez rencontré des victimes directes des attentats, ce qui a dû donner lieu à des moments de témoignages particulièrement éprouvants, forts, très forts pour eux comme pour vous aussi,
oui.
Historien.
Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué d'autant plus qu'il y a toute une partie qui est une partie semi-directive. C'est-à-dire qu'on donne des grandes questions... Et on n'intervient qu'à partir du moment où la personne s'arrête de parler. D'où bon, voilà, des entretiens qui peuvent aller jusqu'à 4 heures, 5 heures hein, pour certains. Donc, bon, la moyenne est à 1 heure et demie. Mmh. Sauf que pour les cercles 1, c'est 2 heures et demie. Bon, alors, les moments compliqués, oui, oui, on en a. Vous savez, quand vous avez des parents endeuillés. Hein, moi, j'avais, je me souviens d'une maman qui avait perdu sa fille unique au Bataclan. Bon. J'étais seul face à elle. Alors que d'habitude, on a le son et l'image, les ingénieurs son-image qui sont là. Bon, là, ils étaient dans une régie à l'extérieur qui pilotait trois entretiens en même temps. Donc, je faisais l'entretien, très compliqué. Hein. Un samedi matin, je ne vous dis pas l'état après. Bon. Et il y avait ma femme, Karine, qui est en même temps secrétaire générale du programme et qui faisait un autre entretien, mais plus rapide, qui savait que ça allait être compliqué. Elle rentre dans la régie, elle voit un des gars qui était en bascule sur sa chaise, la chaise contre le mur, et qui avait lâché les écouteurs. Elle dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?»« Non, je peux plus, là. » Donc, il y a les copains qui continuent, mais moi, je peux pas. C'est trop dur. Bon. Alors, oui, c'était très compliqué. Donc, à la fin, on sort, et puis il y a encore une partie écrite. Et je lui dis « Écoutez, je lui explique un peu le dispositif. » Je lui dis c'est pas par hasard si c'est moi qui vous ai interviewé. On essaye au maximum de faire ça parce que on se dit que vous devez vous dire, tiens, lui, il doit comprendre parce qu'il est en âge d'avoir des gamins qui ont l'âge de ma fille.
Vécu, ouais.
Bon. Et elle me dit, je l'aurais eu une jeune de 30-35 ans, là, j'aurais jamais dit la même chose. Je lui dis, oui, je m'en suis aperçu, oui. Merci beaucoup, oui. Et puis après, on remplit la fiche sociodémographique. Denis, nombre d'enfants, je mets quoi ? Merci. C'était bon. Je lui ai dit, vous mettez un, hein ? Elle est toujours là, non ? Ouais, c'est ce que je voulais faire. Ouais. Bon, voilà, ce genre de choses, ce genre d'échange qu'on peut avoir. Ou bien, les jeunes, ils ont des fractures de partout, quoi. Bon, y compris dans la tête, enfin des problèmes psychiques majeurs, évidemment, pour une bonne partie de ces rescapés. Mais les parents endeuillés, ils ont la fracture au milieu du cœur, avec des larmes qui pèsent des tonnes. Bon, c'est le plus dur. Les endeuillés, c'est le plus dur. Mais voilà, on doit faire avec, on doit s'adapter. Mais c'est très émouvant. Et puis on commence à comprendre les choses. Ou à une anecdote, Roberto, qui faisait un entretien avec un témoin. C'était une jeune femme de 22 ans qui était face à une des terrasses, qui a tout vu, parce qu'elle était là en pizzeria d'en face et qui sortait sans doute pour fumer. Et elle les a vus arriver, canardés, les hurlements, le sang partout, et puis après, le silence. Bon. Entre la 10e seconde et la 2e heure, elle a pleuré en continu. Et à la fin, Roberto lui a dit, mais en sortant, parce que interdiction d'intervenir, évidemment, pendant, mais en sortant, il lui a dit, mais écoute, comme il avait un peu plus vieux, mais pas beaucoup, mais tu n'es pas un témoin, tu es une victime. Bon. Et ce qui est très beau, c'est que 2 ans plus tard, elle revient. Il dit, il est où l'Italien ? Parce que Roberto est italien, qui m'a interviewé. Non, là, parce qu'on alterne justement un jour sur deux pour éviter quand même. Et puis on change pour les mêmes personnes, évidemment. Mais surtout, on reste 6 jours en studio, mais un jour sur deux pour éviter d'être dans la trop forte tension. Et il est où ? Non, il n'est pas là. Oh, dommage. Bon, vous lui direz hein, que ça m'a fait beaucoup de bien, parce que, oui, après, ça va mieux. Et puis je suis allé voir une association de victimes, puis ça m'a aidé beaucoup. Bon, si ça a pu servir, ma foi.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que cette témoin ne se considérait pas comme une victime,
oui.
En fait.
Et en fait, elle l'était. Mm. Et il y avait un problème de légitimité. Parce que, quand je vous dis études longitudinales, j'ai pratiquement 80% des personnes qui reviennent d'une phase 1 en phase 2, et encore 80% de phase 2 à phase 3. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire une étude longitudinale extraordinaire. Bon, c'est très rare d'avoir, dans ce dispositif-là, des gens qui peuvent revenir comme ça, 3 fois, 4 fois. Mais en cercle 1, c'est encore pire. que ce soit les endeuillés ou les rescapés ou même les intervenants, plus de 85% reviennent, 85-87%. Bon. Or, dans le cercle 1, il y a un groupe qui est plus faible que les autres. Ce sont les témoins. Alors, elle est venue les trois fois, mais globalement, les témoins viennent, ont tendance à... Ils sont venus une fois, ils ne reviennent plus.
Parce Pourquoi qu'ils ne se sentent pas légitimes.
Exactement, ils ne se sentent pas légitimes. Ils considèrent qu'ils n'étaient pas victimes. Pourquoi ils parleraient? Ce n'est pas intéressant. Donc on ne va pas prendre la place des victimes, même si évidemment ils ne prennent pas la place des victimes. On remarque ça. Ça, c'est aussi symptomatique de même que dans les récits, le complexe du survivant. Quand on est rescapé, oui, mais les autres, non.
Le programme a commencé en 2016, donc il est prévu jusqu'en 2028.
26, là on a comme chaque étape, on passe devant un jury international pour savoir si on peut aller à la phase suivante. Disons qu'avec aujourd'hui 28 thèses qui
consacrées
du programme, oui, à partir des données du programme, qui sont des thèses du programme, dont la moitié déjà, et puis il y en aura encore 4 qui ont été soutenues, mais dont la moitié, 14, ont déjà été soutenues. Bon, 150 articles, là on vient de sortir 3 livres.
Oui.
Je pense que, enfin j'espère que le jury va, va regarder ça d'un peu près, d'autant plus qu'on a essayé aussi de nous adresser à un plus large public. Donc là il y a un dossier qui est sorti juste mi-octobre, dans L'Éléphant, qui est une revue de vulgarisation haut de gamme.
Destinée au grand public aussi. Il y a plein de formats différents.
Voilà. Qui Donc on essaye au maximum de diffuser aussi.
Dans les autres actualités, on peut signaler aussi un ouvrage collectif qui vient de sortir, qui présente les résultats, une partie des résultats de cette enquête, « Faire face, les Français et les attentats du 13 novembre 2015 », qui vient d'être publié donc aux éditions Flammarion. Et on a aussi ce documentaire dont vous avez parlé au cours de cet entretien, qui sera diffusé sur France Télévisions.
Il y en aura une sur France 2 et une autre sur France 5 dans l'après-midi, 14h30, le 14 novembre. Et bon, c'est évidemment sur les plateformes. Donc voilà, il y a différents canaux, différents médias qui sont utilisés.
Et on encourage fortement tout le monde à les regarder. Et puis, alors sur une actualité complètement différente, Denis Péchanski, vous serez également le 8 novembre prochain, à nouveau dans les murs de l'Institut de France pour un colloque sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, qui est organisé par la mission Libération, dont vous dirigez le comité scientifique.
Exactement, je préside le conseil scientifique et d'orientation de la mission depuis 2 ans. C'est une mission qui a été mise en place à la demande du président de la République pour organiser les commémorations pendant les 2 ans. On a un colloque, qui est un colloque sur mémoire de la Seconde Guerre mondiale, et qui est organisé les 7-8 novembre. Le 7, c'est au campus Condorcet, et le 8, c'est à l'Institut. On a là un colloque de très, très haute tenue de c'est du haut de gamme, et sur le plan historiographique, ça va marquer un tournant, d'autant plus qu'on a à la fois les régimes mémoriels différents dans le temps, donc la façon dont les configurations mémorielles évoluent avec le temps, on voit très bien en France, bien sûr, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, mais aussi des comparaisons internationales, et aussi les différents vecteurs de la mémoire. Donc vraiment, là, je suis très heureux de ce que...
De ce qui va se passer. On encourage tout le monde à y aller. On mettra de toute façon toutes les ressources sur notre site et également sur le site de France Mémoire. Merci beaucoup, Denis Péchanski.
Merci à vous.
Les podcasts de l'Institut de France.